Audiolib présente L'inconnu du pont Notre-Dame de Jean-François Parot. Lu par François Daubigny. À Gérard Boivineau. Chapitre 1. Rome. Rome n'est plus qu'un spectre, une ombre en Italie. Crébillon. Nicolas se tenait immobile, soucieux de ne pas effrayer un petit lézard vert qui se chauffait au soleil. Demain, il regagnerait la France. Il avait voulu revoir le forum une dernière fois. Jamais il n'aurait imaginé se trouver en ce lieu qui appartenait à un passé lointain, celui de ses études chez les jésuites de Vannes. De Rome, seule subsistait pour lui la beauté et la force de la langue latine. Le reptile, intrigué, le considéra, balança la tête, puis disparut dans un interstice de la pierre. Il s'assit sur un bloc de marbre et contempla les vestiges d'un monde disparu. Dégradé, ce haut lieu n'était plus qu'un chaos de monuments en ruine, qu'animait parfois, lui avait-on dit, un marché aux bestiaux. Le centre d'un empire n'était plus qu'un champ de décombres et de débris qui montait à l'assaut des arcs et des colonnes. Sous la voûte d'un monument, enterré jusqu'aux corniches, un barbier tenait boutique. Une chaude lumière dorée contrastait par sa splendeur avec la mélancolie du paysage. Il en éprouva une angoisse renouvelée, celle ressentie un jour d'hiver dans un Versailles minéral et glacé. Son cœur s'était serré dans la certitude que toute chose finirait et que toute splendeur disparaîtrait. Pourtant, le bouleversement effondré qui l'entourait n'effaçait pas l'écho des discours fameux prononcés en ces lieux. Il continuait à retentir et à évoquer les prestiges enfuis. Cette conviction lui fut une amère consolation. Que faisait-il à Rome? Il remonta le temps jusqu'à cet entretien avec le roi, dans son atelier, au-dessus des petits appartements. Le moment était dramatique. Quelque temps auparavant, le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, convaincu d'escroquerie, avait été arrêté en habits pontificaux dans la galerie des glaces juste avant l'office du 15 août. Abusé par la comtesse de la Motte-Valois et ses complices, le prélat avait acquis un collier inestimable destiné à lui gagner les faveurs de la reine. Louis XVI, après avoir, à son habitude, évoqué d'autres sujets, lui avait demandé son avis. Ce n'était pas la première fois que le souverain requérait son conseil, mais chacune de ses consultations plaçait le fidèle serviteur dans le dilemme d'avoir à contredire son maître ou de trahir son sentiment propre.
« En Reuil, que pensez-vous du cardinal de Rohan? Le connaissez-vous ?
« Non, sire, je l'ai croisé à la cour comme tout un chacun. En revanche, j'ai eu affaire à son âme damnée, l'abbé Georgel, un bien méchant trublion.
Qui s'agite beaucoup au service de son maître. Et Cagliostro?
Un escroc de haut vol, séduisant et insinuant.
Ses prétendus pouvoirs sont-ils avérés?
Point, sire. Votre majesté doit savoir que c'est par la persuasion et l'illusion qu'il subjugue. Il promettait de l'or et des diamants au cardinal, et un glorieux avenir.
Et la dame de la Motte?
Une intrigante de mauvaise vie qui faisait tout pour approcher la reine. Le roi marmonna des propos indistincts et déploya une carte marine qui concentra toute son attention. Il releva la tête et posa un doigt sur le pourpoint de Nicolas.
Parlez-moi net, dit-il d'un ton rogue.
Peu, hormis vous, ose s'y risquer.
Que faut-il faire du cardinal? Fallait-il le déférer devant le Parlement pour un procès public?
Il l'a lui-même réclamé. Il y eut un temps de silence. Le roi jouait avec un compas, mesurant avec une feinte application des lieux marines sur la carte.
La reine le veut, la reine l'exige. L'outrage est tel qu'elle est en droit d'exiger une éclatante réparation. Considérez l'injure, son énormité.
Et cette réparation, elle la veut publique.